Mesdames et messieurs, le colloque consacré aux colères et repentirs divins est l'occasion de faire connaître pour la première fois un psaume pénitentiel bilingue, retrouvé par André Parot à Marie. Un homme si plaint du sort malheureux, vous avez le texte ici, un homme si plaint du sort malheureux dont son Dieu courroucé l'accable et tente de le convaincre de le sauver par une suite de formules imagées qui parlent plus au cœur qu'à la raison. Je me propose simplement de lire et présenter brièvement cette pièce qui a circulé dans toute la Mésopotamie et est encore donc au deuxième millénaire et encore connue au premier millénaire. Puis nous nous pencherons sur le contenu de la prière en essayant d'éclaircir l'identité sociale du souffrant à partir du portrait qu'il brosse de lui-même. Enfin, nous évoquerons les possibles relations entre ce type de psaume et le contenu de la correspondance royale de Marie et d'autres documents. Donc au-delà de la dimension religieuse du psaume pénitentiel, c'est tout un art de la communication typique des courtisans amorites qui peut-être transparaît. Donc voilà mon plan. Alors, il s'agit de deux textes, de petites tablettes qui appartiennent à ce qu'on appelle les textes littéraires. On en a trouvé un certain nombre dans le palais de Marie. Ils sont peu nombreux, mais de genres très, très différents. Les deux textes qui nous intéressent sont des textes, comme je l'ai dit, bilingues. Le sumérien étant la langue principale, l'acadien apparaît comme la traduction du sumérien. Alors le sumérien était une langue morte au début du deuxième millénaire, mais elle avait conservé cette langue un caractère sacré et elle restait transmise dans le milieu scribal et ainsi que de manière plutôt orale dans le milieu des chanteurs. Alors sur ces deux tablettes, ces deux tablettes de cunéiformes ont une particularité. Le texte est écrit sur le grand côté, ce qui n'est pas l'usage. Et puis, on en a retrouvé dans le palais plusieurs textes de ce type, comme par exemple cette liste de pressages hépatoscopiques. Alors, de toute évidence, il s'agit de petites tablettes scolaires. Alors, ces deux documents dont je vais parler ont été rédigés par un seul scribe, et en réalité, ce sont deux extraits d'un seul texte qu'on peut donc réunir à partir de ces deux exemplaires. Ce texte est connu par ailleurs, il a d'ailleurs été édité par Lambert, et donc par là même, on peut savoir qu'il manque un tiers du texte, donc la fin. Malheureusement, nous n'avons pas retrouvé cette tablette dans le palais, mais elle a probablement existé. Alors voici le texte, et une traduction pour l'instant provisoire. « Moi, qu'ai-je fait à mon Dieu ? Qu'ai-je fait à mon Dieu qui m'a donné naissance ? Qu'ai-je fait à la matrice qui m'a créé ? Qu'ai-je fait au marchand qui porte ma balance ? Qu'ai-je fait, moi, qui suis son esclave domestique ? Qu'ai-je fait, moi, qui suis son serviteur ? Qu'ai-je fait alors que, de fait, j'étais en fonction pour le Seigneur sur de solides assises ? Il a transformé ma demeure en une demeure de lamentation. Il a transformé ma demeure en une demeure de pleurs. Moi, je vis désormais à l'intérieur dans la lamentation. N'avais-je pas gardé pour lui dans les tables mon bœuf ? N'avais-je pas gardé pour lui dans la bergerie les moutons ? N'avais-je pas gardé pour lui tout bien estimable que j'avais acquis ? Trouvais-je du pain ? Je ne me le réservais pas pour ma nourriture. Trouvais-je de l'eau ? Je ne le réservais pas pour ma boisson. Mais comme si j'étais quelqu'un qui, ayant trouvé du pain, je me l'étais réservé pour ma nourriture, mon Dieu m'a traité de la sorte. Comme si j'étais quelqu'un qui, ayant trouvé de l'eau, je me l'étais réservé pour ma boisson, mon Dieu m'a traité de la sorte. Et c'est la version Mariotte s'arrête à cet endroit. Alors il existe, comme je l'ai suggéré, plusieurs versions contemporaines de ce texte provenant de Babylonie. Aucun de ces textes anciens ne contient de traduction en acadien, et donc c'est la première fois que nous avons une version en acadien pour l'époque paléo-babylonienne, donc ce qui rend l'exemplaire de Marie très, très intéressant. De plus, il y a d'importantes divergences entre toutes les versions qui nous sont parvenues. Certains textes font 58 lignes, d'autres moitié moins. Alors l'incipit permettait d'identifier ce poème, et par ailleurs, il y avait un certain nombre de thèmes que tous ces textes partageaient, des formules du type, donc, notamment cette introduction qui commence par une litanie de « qu'ai-je fait ?» et puis des formules comme « n'avais-je pas gardé pour lui dans les tables mon bœuf ?» et des motifs comme le thème du marchand et de sa balance, ainsi qu'évidemment aussi la structure. Alors, même sans narration, cette lamentation présuppose deux moments dans la vie du souffrant, un avant où régnait l'harmonie entre le fidèle et son Dieu, et un présent assombri par l'éloignement du Dieu et marqué par le malheur. Le souffrant anonyme se plaint à la première personne. Il commence par, donc, comme vous l'avez constaté, par une litanie qui a pour but d'attirer l'attention de la divinité en lui rappelant les liens qui unissent donc, le souffrant avec ce Dieu. Ce Dieu lui-même est anonyme, et sauf qu'il dit « c'est mon Dieu », donc c'est probablement son Dieu personnel, ou un Dieu, en tout cas, dont il est particulièrement dévot. Alors, après cette litanie introductive qui vise à attirer l'attention du Dieu, le motif de la plainte est exposé, d'une manière d'ailleurs extrêmement vague, et enfin, le souffrant interpelle la divinité et supplie à cette divinité de venir à son aide, mais cette partie, précisément, est manquante à Marie. Alors, non seulement la situation de ce souffrant est décrite de manière très vague, mais on a en fait affaire à une série d'images naturellement stéréotypées, comme par exemple la maison devenue une maison de lamentation, ou des formules toutes faites, « puisse l'humeur de mon Dieu redevenir paisible comme avant », c'est une des formules qui apparaît dans la troisième partie, donc, qui manque à Marie. Ce type de formule était sans doute très pratique pour les interprètes ou les récitants, puisqu'on pouvait les recycler à la fois dans ce poème, mais aussi dans d'autres poèmes proches, lors des performances. Alors, ce texte appartient à un genre qui porte le nom de Erscharunga, c'est marqué sur le tableau. C'est un genre qui continue désormais à tester à l'époque paléo-babylonienne, au début du deuxième millénaire, mais surtout connu au premier millénaire grâce à la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. D'ailleurs, dans un catalogue de titres de ces prières Sharunga, on trouve précisément le nom de notre texte, donc qui prouve qu'il existait, bien sûr, encore au premier millénaire, au 7e siècle. Alors, le terme Sharunga est intéressant puisqu'il signifie littéralement « lamentation pour apaiser le cœur », sous-entendu d'un dieu. La lamentation qui nous intéresse, et en tout cas ce genre, est réputé être un genre de lamentation individuelle, dépourvue de motifs mythologiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi cette prière a été transformée éventuellement au premier millénaire en incantation, ce qui permet effectivement, y compris sa longévité, de montrer que c'était une formule qui était considérée comme efficace, donc elle avait probablement une fonction rituelle, notamment dans les rites de purification, pas forcément d'ailleurs individuelle, puisqu'à l'époque néo-assyrienne, son usage est assez diversifié, notamment cette incantation servait dans les rituels royaux. Alors, pour ce qui concerne le début du deuxième millénaire, il faut dire que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur l'emploi et sur la fonction de cette prière, mais le fait évidemment de l'avoir trouvée dans le palais de Marie est extrêmement intéressant, puisque ça fait évidemment un parallèle avec l'époque néo-assyrienne, où ce type de texte a été aussi retrouvé dans un contexte palatial. Alors on pourrait faire l'hypothèse qu'il s'agit d'un texte introduit par un enseignant scribe ou éventuellement musicien, afin de former à ce chant des chanteurs ou des chanteuses. Nele Ziegler a publié assez récemment des lettres de musiciens qui témoignent de l'introduction de poèmes sumériens dans le palais. Donc, je donne ici juste deux exemples complémentaires. Sais-je pourquoi j'ai enseigné à ceux de l'habitation royale la lamentation telle une vache dans mon étable ? Monseigneur l'a écouté, pourtant je n'ai pas obtenu de reconnaissance de la part de Monseigneur. Tel autre texte indique « J'expérimenterai le chant d'âme à qui a reçu en lot les 3600 pouvoirs suprêmes ». Il s'agit toujours de lamentation en sumérien. Donc le deuxième texte est évidemment très intéressant parce qu'il parle d'une expérimentation. L'interprétation du contenu d'un tel psaume est naturellement délicate et un peu spéculative, car nous ignorons tout de son origine et de sa réception. Ce qu'on note simplement, c'est que ce type de texte se trouve bien sûr dans un contexte palatial, mais les autres exemplaires, en tout cas certains autres, ont été retrouvés dans des maisons. Alors, on a aussi, par ailleurs, souvent fait des connexions entre les centres d'intérêt des habitants d'un lieu et les textes littéraires qu'ils possédaient. Alors, dès lors, je me permettrai de faire un lien entre ce psaume et les habitants du palais de Marie, non pas le roi, car je crois que ce texte est destiné que secondairement au roi, mais je m'intéresserai tout particulièrement, éventuellement, aux fonctionnaires, car je crois voir un lien entre le contenu du texte et le fonctionnaire. Le psaume est d'abord un monologue, ce qui souligne la solitude du souffrant et son éloignement de la protection divine. Donc au début, on ressent tout l'isolement du personnage qui est accentué et qui prépare l'effet final, donc la troisième partie, lorsque le souffrant, poussé à bout dans son désespoir, s'adresse directement à la divinité. Alors ce Dieu, comme je l'ai dit, est anonyme, ce qui permet au texte un usage universel. Mais, comme je l'ai noté, ce Dieu se réfère à un Dieu personnel. Or, une lettre de Marie, toujours publiée par Nelle Ziegler, qui émane d'un homme, d'un père de famille, dit « Il est venu, il se plaint, et donc le chef musicien dit ceci, il est venu en invoquant son dieu gardien, invoquant sa déesse protectrice, il s'est approché de moi. » Ce qui montre effectivement que les habitants de Marie, et pas seulement les rois, considéraient qu'ils avaient des divinités protectrices. Il semble donc que cette divinité protectrice pouvait se mettre en colère contre son propre dévot, alors qu'elle était évidemment censée le protéger. Notons cependant que cette colère de la divinité était considérée comme n'étant pas normale, et ce qui explique la formule qu'on trouve dans la prière, qui appelle au retour, à la restauration des bons sentiments du Dieu, employant une expression qui est utilisée aussi pour la restauration des temples, ou tout simplement la restauration de l'ordre initial, l'ordre normal des choses. En réalité, la relation normale entre l'homme et son Dieu est, disons, une relation d'amour, et ceci aussi est souligné, une relation qui est comparée à l'affection paternelle et maternelle. Alors le souffrant se réclame de la parenté du Dieu, c'est là un élément intéressant. Il est premièrement sa créature, voire son enfant, et deuxièmement, il souligne aussi, comme on l'a pu le constater, qu'il est son serviteur, et on sait bien à Marie que ces deux notions peuvent se combiner, le fils étant toujours, quelque part, au service de son père. Alors, il est bien connu que Gudea, le prince de Lagash, au troisième millénaire, déclare à la déesse Nanche, au début d'une prière, qu'il n'a pas de père, qu'il n'a pas de mère. Alors il dit ceci, ma reine, dès que tu as posé ton regard sur les gens, c'est spontanément l'abondance, et l'homme juste qui a reçu ton attention, une vie plus longue lui est créditée. Je n'ai pas de mère, c'est toi ma mère. Je n'ai pas de père, c'est toi mon père. Tu as planté ma semence dans le ventre, tu m'as enfanté dans le sanctuaire. Donc le rapprochement peut être fait avec l'affirmation du souffrant de Marie, entre guillemets. Bien sûr, il s'agit d'un langage symbolique. D'ailleurs, Gudea fait une déclaration similaire à une autre divinité. On voit bien qu'il s'agit de captiver l'attention le plus possible de la divinité en lui rappelant des liens indéfectibles qui les unissent. Rappeler à un Dieu qu'il est son créateur est aussi une manière de lui rappeler ses devoirs, devoirs qu'ont naturellement les parents à l'égard de leurs enfants, et ce devoir est notamment un devoir de protection. Donc cela suppose aussi un lien affectif très fort, qui probablement aussi a l'avantage de permettre plus facilement le pardon. Alors, même si ce souffrant est anonyme, il y a quelques éléments qui peut-être peuvent permettre de cerner son portrait social. C'est un homme qui est potentiellement un père de famille, et, ou peut-être un jeune homme en passe de l'être, car souvent dans les récits de juste souffrant, il est précisé que c'est un jeune homme. Il possède en tout cas des biens, une maison, il a un bœuf, des moutons, éventuellement il peut avoir des biens de valeur. Et donc là, on reconnaît les éléments minimums d'un homme installé dans la société du début du deuxième millénaire. Donc on trouve cette allusion à ce qu'il possède dans ce passage que nous avons déjà lu. Alors ses activités, quelques détails sont donnés sur ses activités, puisqu'on apprend que ses activités donc l'amènent à fréquenter un marchand, c'est son marchand, qu'il caractérise par sa balance, donc image assez classique. Celui-ci, donc avec sa balance, pèse l'argent, le grain et les autres marchandises. L'individu donc peut établir des contrats, probablement on peut imaginer beaucoup de choses en fonction de ce qu'on connaît bien par ailleurs, donc avec le marchand qui est un personnage important de la société, évidemment, au moins ne serait-ce qu'au début du deuxième millénaire. Mais, évidemment, le récit évoque une dégradation des relations entre lui et son marchand, car probablement ce que suggère ce texte, c'est que ce marchand a truqué la balance à l'insu de son client. C'est aussi une image assez classique. Or, il se trouve qu'une prière hittite adressée au dieu soleil, donc associée à l'image de la justice, contient une réminiscence manifeste de ce poème. Puisqu'il dit, donc j'ai donné aussi l'extrait tiré de notre poème, « Mais qu'ai-je fait à mon Dieu ?» Donc on retrouve l'incipit. « Le marchand tient la balance sous le soleil et fausse les plateaux, mais qu'ai-je fait à mon Dieu ?» Une autre ligne nous dit, qui est très intéressante, « Qu'ai-je fait alors que, de fait, j'étais en fonction pour le Seigneur sur de solides assises ?» montre qu'il s'agit... plus précisément d'une sorte de fonctionnaire, de quelqu'un qui est au service du roi et qui a un domaine qui était à l'origine, avant la colère divine, un domaine qu'il croyait stable. Alors, il y a une... Alors, je ne suis pas sûr de l'avoir... je n'ai pas indiqué dans mon... Je vais simplement le lire. Donc, il y a une lettre de Marie, très intéressante, qui est écrite par un des rois de Marie, qui s'adresse à son père, qui est un roi plus important, et il se plaint de la mutation d'un fonctionnaire très important, et il dit ceci, « Si j'expédie Sidinam, c'est ce fonctionnaire, chez papa, il parle ainsi à son père, même s'il est roi de Marie, quel est donc l'homme de confiance qui sera en fonction ici, c'est-à-dire à Marie, et rendra ferme les assises de ce palais ? Papa sait bien que les assises de ce palais ne sont pas fermes. » Donc, autrement dit, pour le roi, le fonctionnaire, en tout cas certains hauts fonctionnaires, sont essentiels pour maintenir le palais, et on exprime cette bonne gestion, cette gestion saine d'un palais, par l'expression « avoir des assises solides ». Donc, notre souffrant est manifestement un haut administrateur, peut-être un gouverneur, qui, en fait, pensait administrer très bien ou vivre, enfin, exercer ses fonctions dans un palais, un royaume très, très, très sûr, mais ses certitudes ont volé en éclats. Par ailleurs, ce souffrant se flatte d'être un serviteur, et il dit qu'il est un serviteur né à la maison, c'est l'expression en acadien « douchou » et en sumérien « ama touda ». Il dit aussi, il insiste sur le fait qu'il est un serviteur et aussi au service d'un seigneur. Alors, dans notre civilisation qui est prise de liberté individuelle, être le serviteur d'un autre serait vu peut-être comme une situation personnelle peu valorisante. Les gens du début du deuxième millénaire ont une opinion tout à fait contraire, et comme le montre cette revendication d'un notable. « Pourquoi Monseigneur m'écrit-il ainsi lorsqu'il m'envoie une lettre ?» dit « Aïlia Ibi Ilabrat, ainsi parle Yasmaradou, tout le monde ne sait-il pas que je suis ton serviteur ? Pourquoi donc Monseigneur, lorsqu'il m'envoie une lettre, ne m'écrit-il pas ainsi ?» Et dit à Ilabrat, « Ainsi parle Yasmaradou, ton seigneur. » La position d'un scribe né dans la maison du roi est plus valorisante que celle du scribe qui a simplement été recruté, comme l'indique cette fameuse bilingue de Marie, « Je suis né dans la maison de mon seigneur, je n'ai pas été recruté de l'extérieur. » C'est-à-dire que j'ai un statut de serviteur plus élevé. Donc c'est aussi ce que revendique le souffrant, cette fois-ci, par rapport à sa divinité. Bien, la souffrance est exprimée à la fois par des images, par sa situation, le fait qu'il vit dans une maison de larmes, probablement aussi par le ton dramatique. On sait que ce genre de poème probablement était récité avec le son, le martèlement du tambour. Mais l'image, évidemment, de la maison en deuil, de lamentation, pardon, est évidemment l'image de la maison en deuil. Donc, ce qui signifie, c'est qu'il est comme un mort. Peut-être est-ce lui qui est mort et dont on célèbre la mort dans sa maison. En tout cas, c'est l'image de la mort sociale. Est-ce que c'est quelqu'un d'innocent Apparemment, dans sa justification, il souligne sa piété, il souligne son attitude par rapport à la divinité et tout ce qu'il a fait qui, manifestement, sont des arguments contre la punition qu'il subit et qui apparaît dès lors clairement comme injuste. N'avais-je pas gardé pour lui dans l'étable mon bœuf où je trouvais du pain et je ne le gardais pas pour ma nourriture, sont évidemment des images qui évoquent cette attitude remarquable et modèle de ce juste souffrant. Alors, il se trouve que ce passage, notamment la deuxième partie du passage que vous avez sous les yeux, est une formule figée et qui a été réemployée dans d'autres textes. C'est ce que montre la bibliothèque de Ninive, où on trouve dans une sorte de lamentation, peut-être de psaume, mais cette fois-ci adressée à une déesse, le même passage, à peu près mot pour mot, avec 1000 ans d'écart, mais il y a juste un ajout qui est très intéressant au milieu, donc le parallélisme est juste interrompu momentanément. Chaque jour, j'ai déposé ou éventuellement versé devant toi de l'eau claire et fraîche, donc qui en fait permet de commenter en fait le passage en montrant qu'on est bien dans un contexte cultuel et qu'il a donc accompli, qu'il a réservé pour la divinité les animaux qu'il gardait, donc il les a offerts en sacrifice probablement, et qu'il se privait de nourriture pour son Dieu. Alors, je passe à ma troisième partie. Je voudrais en fait maintenant aborder la question de la relation entre cette prière et son contexte, donc le contexte palatial et le monde des administrateurs. J'ai supposé, bien sûr c'est une hypothèse, que ce texte était un texte destiné à l'enseignement, peut-être une tablette d'enseignant ou une tablette d'étudiant. Il y a beaucoup de fautes qui sont apparentes. Alors, peut-être cette deuxième hypothèse est-elle préférable. Mais, quoi qu'il en soit, c'est intéressant de voir ce type de texte participer à l'apprentissage de l'écriture ou bien même éventuellement destiné à la musique, puisque, d'une certaine façon, ça permettait aussi aux scribes et aux courtisans d'apprendre d'abord ces textes et puis, à partir de ce type de texte, d'en faire des modèles, éventuellement de les réemployer dans la vie quotidienne pour leurs propres besoins, pas uniquement dans un contexte religieux d'ailleurs, mais aussi bien dans peut-être quelque chose de plus immédiat, leur relation avec leur suzerain, leur seigneur, qui était sans doute un aspect très important de leur existence. D'ailleurs, il faut souligner que le roi de Marie, comme les rois au Proche-Orient en général, sont des hommes un peu au-dessus des autres Et comme le montrent à la fois la littérature, les inscriptions royales, mais aussi les allusions dans les lettres, ils sont considérés, ou on les traite comme des dieux, ou des gens proches des dieux, ou qui ont des qualités qui leur font penser aux dieux. Les rois eux-mêmes jouent ou utilisent cette idéologie, comme cette lettre de Zimri-Lim, où il se compare avec une déesse bénissante dont la fonction était de protéger les fugitifs, les suppliants, et lui-même, il compare sa fonction. Donc il y a des suppliants qui viennent chez le roi, cette mission est sacrée, elle est comparée à celle d'un dieu protecteur. Donc c'est un des exemples qui montre cette fonction divine du roi, cette proximité entre l'image du roi et l'image du dieu. Alors, justement, précisément, dans ces psaumes, il est question du Dieu, mais on peut très bien transposer, imaginer qu'on pouvait translater le Dieu en un roi, et dès lors, à partir de l'apprentissage de ce type d'outils, eh bien, on peut imaginer que les scribes avaient un outil de communication, et nous savons que la communication est un élément essentiel dans l'organisation palatiale du début du deuxième millénaire, que les lettres des scribes, les lettres qui ne sont pas parvenues, ne sont pas écrites spontanément, mais répondent à des modèles, et précisément la littérature nous permet peut-être de percevoir quelques modèles. Alors, je voudrais juste terminer par une lettre qui, en fait, est sans doute une des lettres les plus représentatives de ce lien qu'on peut faire avec le psaume. « Depuis le jour où mon Seigneur m'a touché du doigt, je n'ai cessé d'obéir à mon Seigneur. Je n'ai commis ni faute ni manquement. Ainsi, mon Seigneur m'a, à bon titre, récompensé comme par ma chance, comme quelqu'un qui aurait révélé l'ordre de mon Seigneur pour me punir. Mon Seigneur m'a envoyé dans ce territoire. » Je garde un palais qui a été mis en ruine. Alors, dans cette plainte, on trouve beaucoup d'éléments qui nous font penser à Nersharunga. D'abord, le roi, en fait, est présenté comme quelqu'un qui a touché du doigt son serviteur. C'est aussi une image qui est employée pour les dieux lorsqu'ils choisissent des rois. Donc, on a encore ce lien entre le roi et la divinité. Par ailleurs, La faute, il est accusé, le fonctionnaire est accusé d'une faute, mais cette faute est à ses yeux incompréhensible, et donc il est accusé comme quelqu'un qui aurait trahi l'ordre de son Seigneur. De même, notre souffrant dans le psaume explique qu'il est accusé, enfin que ses malheurs il subit ses malheurs parce que comme quelqu'un qui aurait détourné la nourriture destinée aux dieux pour lui-même. Et puis enfin, il dit qu'il garde un palais en ruine, ce qui rappelle la maison transformée en lamentation. Donc évidemment, c'est aussi sans doute ce que la maison en deuil rappelle aussi la maison en ruine. Enfin, j'espère, c'est ma conclusion, d'être arrivé à montrer que le psaume pénitentiel trouvé dans le palais de Marie était typique et un révélateur des mœurs des Mésopotamiens. Donc si les puissants sont imprévisibles, la défaveur encourue par le serviteur n'est pas irréversible. Séduire les puissants, attirer leur pitié, rappeler leurs devoirs, étaient autant de moyens pour atténuer les rapports sociaux trop verticaux. Je vous remercie.